Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans les écoles d'innovation pour parler du biomimétisme dans le cadre du cours de sciences et débat public de l'Université de technologie de Compiègne. On parlera de ce sujet avec Louise, Jeanne et Louise et moi-même, Juliette. Bonjour les filles.
Bonjour.
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 Il est tout d'abord important de définir ce qu'est le biomimétisme. Le biomimétisme est le fait de s'inspirer de la nature pour trouver des solutions à des problèmes humains. S'inspirer des formes, des matières, des propriétés observées dans le monde végétal ou animal. Ce principe n'est pas récent, il s'est installé depuis la nuit des temps pour créer et innover. Cependant, ce terme n'est pas connu de tous. Mais à quel point est-il connu ? Nous avons donc demandé à des passants dans la rue s'ils avaient des connaissances sur ce sujet, et on va donc vous laisser avec ces paroles.
Je sais absolument pas ce que c'est le biomimétisme. Bio pour biologie, j'imagine. Un truc qui est en rapport avec la biologie. Et mimétisme, j'en sais rien.
Le biomimétisme ne me dit pas grand-chose, à part que bio pour le vivant et mimétisme, ce qui est en miroir, enfin ce qui est le mime, quoi, ce qui ressemble à, c'est tout. Sinon, ça ne me dit pas grand-chose de plus.
Bah, le biomimétisme, c'est dans la nature, les plantes ou les animaux qui s'adaptent pour se transformer, pour ne pas être vus des prédateurs. Ou, voilà.
Eh ben, c'est la façon qu'a l'organisme de ressembler à un autre organisme, de copier un autre organisme.
Je me posais la question, c'est bon, mimétisme, c'est pareil, et bio, c'est biologiquement, c'est vivant, c'est naturel. Bon, mais le biomimétisme, c'est imiter la nature.
Alors, le biomimétisme, je pense à bio, effectivement, et mimétisme. Donc, je pense à tout ce qui peut ressembler à la nature. Ou alors à ce qui s'en rapproche en biologie, ce que l'homme peut fabriquer qui se rapproche à la nature.
Bon, comme on peut le voir, pas grand monde sait vraiment ce qu'est le biomimétisme, où on n'a pas vraiment entendu parler. Donc pour avoir un peu plus de contexte et mieux cerner ce qu'est le biomimétisme, on va vous donner quelques exemples. On peut par exemple vous citer le velcro, donc le plus connu, je pense, des exemples de biomimétisme. Le scratch, donc qui est une invention humaine dérivée du biomimétisme, inspirée par une plante. La bardane, et plus précisément ses fruits qui s'accrochent sur les animaux dans la forêt. Il y a aussi les plumes d'oiseaux qui ont inspiré la fermeture d'éclairs. Les pagaies qui ont été inspirées par les pattes palmées des canards. L'hélicoptère qui a été inspiré par la libellule. Mais nous reviendrons sur toutes ces innovations plus tard dans l'émission.
Ce qui est important à noter, c'est que le biomimétisme est vu en avant comme l'une des solutions majeures dans la transition écologique pour construire une société qui est plus durable. Notre question est donc la suivante, est-ce que le biomimétisme est réellement une solution durable ? On va débuter avec l'histoire du biomimétisme. Le fait de s'inspirer de la nature pour trouver des solutions à des problèmes n'est certainement pas nouveau. Dès la préhistoire, on imitait le cri des oiseaux pour les chasser, par exemple. On utilisait la fourrure des animaux qui avaient été mangés pour se réchauffer. La nature était donc la première ressource. Depuis, l'idée s'est développée, bien sûr.
En parlant de préhistoire, est-ce que vous savez d'ailleurs pourquoi les squelettes de dinosaures sont une grande inspiration pour les architectes ?
Pas du tout.
En fait, les os de dinosaures sont naturellement conçus pour supporter une très grosse charge en restant le plus léger possible. C'est pour cela que les ingénieurs s'inspirent de leur squelette et de leur articulation pour construire des structures de bâtiments légères et résistantes.
Ensuite, pour la période de la Renaissance, Léonard de Vinci était l'un des premiers à comprendre que la nature est une source inépuisable d'inspiration et de connaissances pour l'innovation technologique et la conception artistique. Son travail a inspiré de nombreux autres scientifiques et artistes au fil des siècles et continue de servir d'exemple pour le biomimétisme moderne.
On peut prendre parmi les exemples les plus connus de biomimétisme dans les travaux de Léonard de Vinci. Tout d'abord, ses études détaillées sur la de la structure des ailes des oiseaux et des chauves-souris qui ont inspiré ses conceptions de machines volantes. En effet, Léonard de Vinci dessine dans un recueil de nombreuses ailes, cherchant tout simplement à équiper une personne d'ailes articulées. Celles-ci sont censées se comporter comme celles d'un oiseau. Donc, après avoir étudié l'anatomie des ailes des oiseaux et des chauves-souris, il imagine des modèles à grande échelle, en fait. Les premières ailes étaient tellement grandes qu'un homme ne pouvait même pas les battre. Donc, ce qui le contraint à opter pour une voiture fixe, l'idée l'amenant vers la conception de son planeur.
Eh oui, le planeur était conçu en observant le vol des grands oiseaux. Léonard de Vinci en a conclu qu'en l'absence d'un mécanisme qui est actionné par la force de l'homme, l'issue la plus envisageable du point de vue technologique était le vol plané sans battre des ailes. Il fait preuve d'ingéniosité en concevant une structure qui est légère et qui s'apparente à celle d'une aile déployée. On y voit des nervures qui ont un poids négligeable, qu'on peut assimiler grandement aux doigts des chauves-souris, ainsi qu'une imitation de la structure osseuse et les cartilages aux extrémités des membres de tous les oiseaux de grande taille. Il désignait cet appareil sous le nom de grand oiseau et rêvait de l'essayer en s'élançant du mont Cesari, colline située dans les environs de Florence. Il s'agit là du premier ancêtre du deltaplane.
Une autre innovation biomimétique de Léonard de Vinci est donc ses dessins de turbines d'eau basés sur l'observation de la façon dont les tourbillons d'eau se forment autour des rochers dans un cours d'eau. Ces observations lui ont permis de concevoir des turbines d'eau plus efficaces en utilisant les tourbillons pour augmenter la force et la vitesse de l'eau qui passe à travers la turbine. On peut donc parler d'autres innovations, car il y en a plein. L'une des conceptions les plus célèbres était la vis d'Archimède, qui utilisait les spirales pour déplacer l'eau à travers la turbine. La forme de la vis était basée sur l'observation de la spirale naturelle formée par l'écoulement de l'eau autour d'un objet en mouvement. De nombreux inventeurs et ingénieurs ont été inspirés par la conception de Léonard de Vinci pour améliorer les turbines d'eau, qui sont utilisées dans la production d'énergie hydraulique pour générer de l'électricité à partir de la force de l'eau. Les turbines modernes s'inspirent toujours des principes de la nature pour améliorer leur efficacité et leur durabilité.
Et oui, et ça ne s'arrête pas là en plus, parce que Léonard de Vinci a aussi innové concernant, par exemple, les ponts en arc qui sont basés sur la structure et la résistance naturelle des eaux. L'une de ses conceptions les plus célèbres était le pont en arc à trois charnières, qui avait une structure similaire à celle de l'os humain. Il a également étudié la manière dont les os des animaux supportent le poids et il a adapté ses principes à la construction des ponts. Les ponts en arc sont encore utilisés aujourd'hui, car ils offrent une grande résistance et une grande stabilité. Donc les ingénieurs modernes continuent encore de nos jours à s'inspirer de ces travaux pour améliorer la conception des ponts et des autres structures en utilisant les principes de la nature pour créer des designs efficaces et durables.
Waouh ! Et ensuite, si on suit la chronologie des choses et qu'on passe maintenant au XXe siècle, c'est Otto Schmidt, un chercheur et ingénieur américain, qui va inventer, dans les années 50, le terme biomimétisme tel qu'on le connaît aujourd'hui. Ou du moins tel que les personnes concernées le connaissent. Il va notamment appliquer le biomimétisme dans le domaine biomédical. Mais c'est quand même et surtout la scientifique Janine Benyus qui a popularisé le terme dans les années 90. Benyus est en effet l'une des premières scientifiques à parler de biomimétisme dans le contexte du développement durable et l'utilité de son application dans la transition écologique. Si ça vous intéresse, elle a d'ailleurs écrit 6 ouvrages sur le sujet. Par exemple, Biomimétisme, quand la nature inspire des innovations durables, écrit en 1997. On verra au cours de l'émission que Benyus joue un rôle vraiment important dans le domaine du biomimétisme.
Après avoir vu l'histoire du biomimétisme, on va étudier quelles stratégies sont utilisées actuellement pour l'appliquer à de nouvelles problématiques. Il existe un principe de base qui permet de raisonner et innover selon une approche biomimétique, c'est la spirale de l'innovation. Le principe est donc de commencer par identifier le problème que l'on souhaite résoudre. Une fois que l'on a identifié le problème, on doit l'interpréter et ensuite le traduire en un challenge biologique qui est similaire. L'étape suivante, c'est de découvrir la réponse au problème biologique avec le meilleur modèle possible.
Et d'ailleurs, est-ce que tu savais qu'il existe déjà un site internet qui s'appelle Ask Nature, créé par l'Institut du biomimétisme de Janine Benyus, justement? Ce site internet, créé en collaboration avec des biologistes, permet de mettre des gens en relation avec des stratégies biologiques qui permettent de répondre à des problèmes plus ou moins courants afin de rendre accessibles les solutions biomimétiques à tous.
Et c'est génial comme solution, ça nous permet à passer à de la... de passer à l'étape suivante de la spirale, qui est qu'après avoir observé les modèles naturels, on doit ensuite choisir et comprendre la solution technique que l'on a choisie parmi ceux qui nous sont offerts par la nature. Ensuite, on doit s'approprier la solution. On doit se poser la question de comment elle s'applique à notre projet, parce qu'il n'est pas question de copier-coller les solutions, mais de s'en inspirer. Après tout ça, on peut finalement résoudre le problème original, et ensuite on recommence. Parce que c'est bien pour cela qu'on appelle la spirale du biomimétisme, car en résolvant un problème, on va en créer d'autres. Donc l'idée, c'est qu'en réitérant la spirale, on peut finalement trouver un compromis et déterminer la meilleure solution au problème initial. Je me demande, est-ce que vous en aviez déjà entendu parler, et qu'est-ce que vous pensez de cette solution ?
Alors, personnellement, c'est vrai que je me retrouve plutôt dans tous les micro-trottoirs qu'on a entendus, et j'en avais vraiment jamais entendu parler. Mais c'est vrai que quand on voit qu'il y a déjà des solutions comme le velcro, etc., en fait, le biomimétisme fait déjà partie depuis longtemps de nos vies.
Oui.
Mais c'est vrai que, donc, du coup, je peux comprendre pourquoi cette méthode elle est utilisée. En effet, déjà, dans la nature, on trouve un réservoir vraiment infini en soi d'inspiration et de connaissances qui sont déjà optimisées d'ailleurs, que ce soit en termes d'efficacité énergétique, de recyclage des matériaux ou même de résilience, puisque dans la nature, tout a été fait, enfin du moins tout est fait pour que ça aille au plus vite vers le but à atteindre. Par contre, je pense qu'il ne faut pas négliger le fait qu'il faut une compréhension vraiment approfondie de la biologie et des principes scientifiques, ainsi que des contraintes techniques et économiques à prendre en compte, parce que ce n'est pas aussi facile que ce qu'on pense, et il ne faudrait pas créer un problème plus gros que celui qu'on résout, parce que même si on trouve quelque chose dans la nature, ça va pas forcément être le mieux optimisé pour nous, et ça va peut-être même créer quelque chose d'encore pire que le problème qu'on cherchait à régler initialement.
Oui, totalement, je suis d'accord avec toi. Il faut quand même des bonnes connaissances en biologie pour pouvoir appliquer ce schéma. C'est pas un schéma en fait qu'on peut appliquer chez nous pour faire par exemple des petites inventions nous-mêmes. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui est assez complexe, et c'est dommage parce que en fait, comme on l'a entendu dans les micro-trottoirs, les gens ils connaissent pas, ils n'entendent pas parler de biomimétisme. Donc si en plus on applique des principes qui sont compliqués pour leur expliquer,
je suis complètement d'accord.
Ça peut être un peu...
Il faudrait quelqu'un qui arrive... Pardon.
Mais moi, je ne suis pas si sûre si je suis si d'accord avec vous, parce que justement, on avait vu, par exemple, on était donc dans une conférence dans le cadre de Pint of Science, donc... ce qui est un festival de vulgarisation de la science qui a été eu lieu à Compiègne, on nous avait justement parlé du fait que le biomimétisme n'est pas utilisé par les biologistes, c'est surtout en fait un outil qu'on utilise. Et justement, le fait qu'on nous donne accès, par exemple, à cette base de données qui a été créée donc, par l'Institut du biomimétisme de Janine Benyus, justement, ça simplifie vachement la tâche et on n'a pas besoin d'avoir une telle expertise pour appliquer les solutions qui existent déjà dans la nature, parce que on a déjà des bases de données qui existent avec toutes les solutions qui ont déjà été trouvées et étudiées par des biologistes, justement. Donc je pense que c'est en cours de simplification.
Oui. Mais oui, c'est en cours parce qu'il faut quand même avoir une assez bonne connaissance pour réussir à retranscrire les situations dans notre monde en le sortant complètement de la nature.
Oui, ça, je suis d'accord. Mais après, je pense que les connaissances dont on a besoin, ce n'est pas forcément des connaissances biologiques, par exemple.
D'accord, oui.
Si on est ingénieur en mécanique, ou on travaille sur les matériaux et qu'on veut appliquer le biomimétisme, on utilise...
Il suffit de reconnaître le principe.
Oui, exactement. On prend ses propres connaissances et on les applique.
Pour la bioméca, par exemple, les prothèses et tout ça.
Oui, c'est ça.
C'est ça, oui. Ok.
Donc maintenant que l'on sait comment tirer des connaissances de la nature pour les appliquer à nos problèmes quotidiens, on va étudier les différents degrés qu'il existe lors de l'application de ces solutions biomimétiques. On peut identifier au total 4 degrés de biomimétisme. Le premier, le plus simple, est celui des formes. Il intervient lorsque nous prenons inspiration dans la nature au niveau des formes que nous pouvons trouver, uniquement pour l'esthétique et non pour la pratique. Par exemple, une lampe en forme de fleur va reproduire cette forme retrouvée dans la nature, à un but seulement esthétique. Ce degré est donc trouvé dans le design et cherche simplement à reproduire la beauté de la nature.
Le deuxième degré, quant à lui, a lieu lorsque l'on relie la forme avec la fonction. Donc on prend un petit peu le premier degré et on le mélange au troisième degré, comme vous allez le voir. deux inventions qui viennent à l'esprit pour ce type de biomimétisme sont eh bien, le velcro, comme on en a parlé, qui sont inspirés de la forme d'une plante, et le wingsuit, qui imite la forme de l'écureuil volant afin d'en avoir les mêmes propriétés et de pouvoir planer.
Le troisième degré, quant à lui, va reproduire directement la fonction, propriété ou procédé. On peut identifier pour cette catégorie la portance d'un avion qui va copier le dimensionnement des ailes trouvées dans la nature. On ne va donc pas imiter directement la forme des ailes des oiseaux, contrairement au principe du wingsuit. Vous ne voyez pas les avions battre les ailes non plus. C'est ici plutôt le principe de portance qui va être repris. Un autre exemple est le camouflage d'un poulpe à l'aide des cellules chromatophores qui va inspirer le camouflage des tanks à l'aide de cellules à l'image thermique. On a donc emprunté à la nature l'idée de diviser la surface d'un élément en petites cellules qui peuvent se colorer indépendamment pour donner l'apparence de quelque chose d'autre.
Et enfin, le quatrième degré du biomimétisme vient analyser les organisations et les relations qu'on peut trouver dans les systèmes de la nature. Cela revient à étudier les interactions au sein des systèmes naturels pour venir les appliquer à des scénarios humains. Un exemple de ce cas est l'utilisation de la symbiose exercée dans l'architecture avec l'utilisation d'algoculture. Donc l'algoculture, c'est la culture des algues. Donc c'est une idée qui est innovante et qui vient créer une symbiose thermique et énergétique entre des cultures d'algues et des bâtiments qui ont besoin de chauffage. L'idée de symbiose vient directement de la nature, où très souvent deux organismes vivants vont s'associer pour profiter d'une relation durable et réciproque profitable.
Le biomimétisme dans ses 4 degrés peut s'appliquer en théorie à tous les domaines. Cependant, Janine Bénus, dont on a parlé tout à l'heure, en compte 6 plus spécifiquement. Donc on a l'agriculture, les matériaux, l'énergie, la médecine, les mathématiques et la gestion. Par exemple, plus spécifiquement pour l'aéronautique, les winglets sont des ailettes qui sont sensiblement verticales, situées au bout des ailes d'un avion, et elles ont été inspirées par les ailes de rapace. Pour les transports, le nez du train de Shinkansen a une forme très allongée et fine qui lui permet d'être plus aérodynamique et qui réduit la résistance au vent. Et lui, il a été inspiré par le bec du martin-pêcheur.
Si on parle par exemple du biomimétisme et de l'architecture, on peut voir que le biomimétisme a eu un grand effet, a été très utile dans l'architecture, notamment pour avoir des structures plus résistantes, performantes, des bâtiments et plus économes en énergie et conçues plus durablement. La célèbre tour Gherkin, construite par Foster et Partners à Londres, est un bon exemple d'architecture biomimétique inspirée du squelette des éponges de mer composée de fibres de verre.
Finalement, on arrive aux derniers exemples, mais qui sont peut-être ceux auxquels les gens pensent en premier, qui sont comment les animaux inspirent des innovations. Prenons par exemple les éoliennes. Lorsqu'elles fonctionnent, la plupart des personnes habitant à côté de celles-ci se plaignent du bruit dû au frottement des pales avec l'air. Pour y remédier, l'aérodynamisme a été repensé en s'inspirant du vivant. En effet, l'inspiration vient des oiseaux capables de voler et de s'approcher de leur proie sans faire de bruit, qui sont les rapaces nocturnes, et notamment les chouettes. Et bien en fait, les plumes au bout des ailes de ces oiseaux ont un écartement spécifique et une organisation particulière, ce qui permet de mieux faire passer l'air, de limiter les turbulences et donc de limiter en fait tous les bruits. Enfin, pas tous les bruits évidemment, mais la plupart. Les scientifiques ont donc adapté ce modèle à leur pale, ce qui a permis de réduire le bruit. Mais ce n'est pas le seul animal à avoir inspiré les chercheurs dans ce secteur, parce que par exemple les nageoires des baleines, de la baleine à bosse d'ailleurs particulièrement, sont à l'origine aussi d'un nouveau modèle de pales éoliennes performantes et avec un meilleur rendement et un bruit moindre.
Donc on parle maintenant de biomimétisme dans les économies d'innovation pour l'UV SI1 à l'UTC. Et on en a profité pour demander à un expert qui s'appelle Karim El-Kirat, professeur-chercheur à l'Université de technologie de Compiègne, ce qu'il pensait en fait du biomimétisme, parce que c'est un expert dans le sujet. Donc on lui a posé quelques questions concernant ce sujet. Donc on vous laisse donc écouter son enregistrement.
Donc, bonjour. Tout d'abord, est-ce que vous pourriez vous présenter et expliquer rapidement sur quoi vous travaillez, s'il vous plaît ?
Oui, donc moi, je suis Karim El-Kirat. Je suis professeur des universités à l'UTC. Et je suis arrivé en 2005 à Compiègne, à l'Université de technologie de Compiègne. Et depuis 2001, je travaille sur du biomimétisme, donc à l'échelle moléculaire d'abord. Donc l'idée, c'est de s'inspirer du vivant et des molécules qu'on voit dans le vivant pour fabriquer des... en tout cas pour les exploiter. J'ai, depuis 2017, je développe cette approche biomimétique à différentes échelles, donc dans différents domaines. Ça va de la mécanique en passant par l'informatique et le biomédical.
D'accord. Et donc, pourquoi et comment vous êtes lancé là-dessus ?
Un peu par hasard, en fait, parce qu'en 2001, c'est ma première publication sur le biomimétisme. C'est la première fois que j'utilise le mot biomimétisme et que je me suis rendu compte récemment, en fait, en 2012, que des chercheurs aux États-Unis avaient utilisé le même mot. Et il y a une chercheuse qui s'appelle Janine Benayos qui a produit un livre qui parle du biomimétisme. Et en fait, moi, j'avais juste parlé de biomimétisme en disant que j'imitais la membrane d'une cellule, une cellule étant vivante, donc c'était bio, et je mimais cette cellule, donc c'était biomimétique. Voilà. C'est un peu le hasard. Et puis finalement, il y a une communauté mondiale maintenant qui travaille là-dessus. Je l'ai développé largement à partir de 2008, en fait, en essayant d'emmener des gens avec moi de l'UTC qui travaillent dans différents domaines. Ça va de la corrosion des aciers en passant par les capteurs ou des applications dans le biomédical, ou des applications d'ailleurs aussi en physico-chimie, où on a commencé à développer des sujets ensemble.
D'accord.
Sur la période 2008-2011, puis ensuite, ça se fait naturellement depuis.
D'accord, merci. Et selon vous, est-ce que le biomimétisme va fondamentalement changer notre méthode d'innovation dans le futur ?
Alors, je vais être très franc là-dessus. Moi, j'aimerais que ce soit déjà le cas, en réalité. Parce que c'est un levier puissant qui permet d'innover quasiment sans réfléchir. Quand je dis sans réfléchir, en réalité, il faut réfléchir un petit peu. Copier c'est bien, mais copier en ayant compris c'est encore mieux, et donc il y a quand même une étape de caractérisation, comprendre les mécanismes avant de pouvoir les reproduire. Mais là où je dis que ce serait bien, c'est parce que finalement le biomimétisme, c'est lire la nature qui correspond à 4 milliards d'années d'évolution, où les structures se sont raffinées, les procédés se sont optimisés, et donc finalement on a les résultats de ces adaptations, de ces évolutions maintenant. Et pour peu qu'on soit capable de lire ces stratégies, ces procédés, ces structures, de comprendre d'où elles viennent, eh bien on peut les transposer dans des applications technologiques. Donc en fait, moi je plaide en faveur d'une technologie actuelle, d'une industrie actuelle, qui se demande finalement comment elle peut améliorer ses procédés, ses structures, diminuer les consommations d'énergie par exemple, ou améliorer la résistance des structures, la durabilité des produits. Comment elle peut résoudre tout ça en regardant le livre de la nature et en disant « Ah, je vais appliquer ce principe-là parce qu'il est bien, et il me permet d'avoir des structures résistantes dans le temps, ou tel principe qui permet de diminuer les consommations d'énergie, etc. » Et donc ça, tout ça, c'est basé sur l'approche biomimétique, et ça nécessite quand même de l'apprendre, de l'intégrer, pour pouvoir de la maîtriser, pour pouvoir l'utiliser. Donc moi, j'aimerais qu'elle soit transmise à tout élève ingénieur pour servir après, mais on en est loin encore.
Voilà. Je suis plutôt d'accord. Et du coup, est-ce que vous pensez que les solutions proposées par la nature, c'est toujours les meilleures ?
Alors non, pas toujours. Ça dépend des performances qu'on vise. Par exemple, on ne trouvera pas dans la nature un oiseau capable de voler à, 3000 km par heure. Donc ça n'existe pas. Espérer améliorer la vitesse d'un appareil purement en imitant des oiseaux, sans doute pas. Ensuite, ça va être des petites choses sur les structures, sans doute. Et donc, on ne peut pas trouver tout dans la nature. Par contre, souvent dans la nature, ça rejoint une question biologique, une question qu'on se pose souvent quand on est biologiste, et je viens de là à l'origine, mais donc, la question qu'on doit se poser souvent quand on regarde une structure ou quand on regarde une stratégie, c'est toujours de se dire, mais quel est l'avantage de faire une chose pareille ? Dans tous les comportements animaux et végétaux, il y a toujours un avantage, et l'avantage, c'est une économie de matière et une économie d'énergie. Il n'y a qu'un domaine où il n'y a ni économie de matière ni d'énergie, c'est le domaine de la séduction chez les animaux, par exemple, même chez les plantes d'ailleurs, le domaine de la séduction, le domaine de la reproduction, il n'y a aucune économie. Et c'est là que c'est surprenant d'ailleurs, c'est déroutant pour les biologistes, parce que c'est l'endroit où il y a toutes les extravagances finalement, ils mettent beaucoup d'énergie et beaucoup de... pour arriver à séduire un partenaire. Donc, j'ai un peu zappé la question, je développe, mais, tout ne peut pas venir du biomimétisme, mais dans la plupart des situations technologiques, ça vaut quand même le coup de regarder ce qui se passe dans la nature.
D'accord, merci. Est-ce qu'il existe des controverses qui sont connues sur le biomimétisme, et si oui, de quel camp vous êtes ?
Alors, il y a une controverse qui existe et qui est liée à quelque chose qu'on connaît depuis longtemps quand on fait de la bio. Alors, pour reposer les choses, je vais prendre d'abord la casquette bio dans un premier temps. Donc, quand on est biologiste, on étudie les organismes vivants et on trouve à l'occasion une propriété, une molécule, et on se dit, tiens, celle-là, j'aimerais bien la faire surproduire et la vendre. Imaginez que vous découvriez une bactérie, par exemple, qui produit une enzyme qui consomme le plastique, qui dégrade le plastique. Et puis vous êtes un industriel de génie et vous dites, cette enzyme-là, je vais la vendre partout, je vais devenir milliardaire. Oui, mais non, parce qu'en réalité, ça appartient au domaine du vivant, et donc il va falloir d'abord s'assurer qu'on n'exploite pas un organisme vivant à des fins commerciales, parce que ça, c'est interdit, il y a des conventions internationales pour ça. Pour le biomimétisme, c'est pareil. C'est-à-dire, il y a le biomimétisme, en général, comme technique d'ingénierie, comme ce dont on est en train de discuter. Et puis, il y a un biomimétisme qui va être respectueux de la nature, où on va faire attention de ne pas exploiter la nature à des fins commerciales. Ce sera sans doute plus compliqué que dans le cas de la biologie, parce qu'il ne s'agit pas de prendre un organisme, de lui faire produire un produit quand on fait du biomimétisme, il s'agit d'imiter quelque chose qu'il fait. Le côté intéressant du biomimétisme, quand même, c'est que ça fait prendre conscience qu'il y a plein de choses qu'on ne connaît pas, en termes de structure, de procédés, plein d'organismes qui disparaissent tous les jours, et qu'en fait, on a une obligation de conservation. C'est-à-dire qu'il faut en prendre soin des espèces différentes, même si on ne comprend pas tout à fait comment elles fonctionnent, il faut en prendre soin pour être sûr de pouvoir s'y référer à un moment ou à un autre. Elles détiennent peut-être un secret qu'on n'a pas encore. Et donc, le biomimétisme, là, en ce moment, il est en train de s'attacher à cette démarche-là, c'est-à-dire une démarche de conservation et surtout de respect de la propriété intellectuelle, entre guillemets, de la nature.
D'accord. Donc ensuite, les produits et technologies qui sont inspirés par le biomimétisme sont-ils toujours plus durables et respectueux de l'environnement, du coup, plutôt que les alternatives qu'on trouve autrement ?
Non, c'est très clair. Ça. C'est pas parce que c'est biomimétique que c'est bon pour la planète. On peut faire quelque chose de biomimétique, mais de parfaitement polluant. Donc en fait, à la démarche biomimétique, il faut rajouter l'analyse du cycle de vie, l'analyse de l'impact environnemental, parce que ce n'est pas nécessairement une amélioration, en tout cas un changement souhaitable. Donc c'est quelque chose auquel on doit faire attention. En tout cas, biomimétisme et durabilité et développement durable, ce n'est pas synonyme. Il y a des moments où ça se recoupe.
Même si ça vient de la nature.
Même si ça vient de la nature, mais quand on pense à la nature... Il y a aussi des situations de pollution parfaitement naturelles, des situations où en fait un écosystème qui est parfaitement équilibré se voit perturbé par un individu, un groupe d'individus qui arrive et qui colonise le milieu et qui étouffe toute vie dans le milieu. Donc c'est une concurrence directe. Donc en réalité, on pense à des espèces qui ont été introduites par l'homme, mais pas que. Il y a aussi des mouvements. Je veux dire, l'homme bien sûr introduit des espèces dites invasives et qui vont, par exemple, les crevisses de Californie ou américaines, je ne sais plus comment elles s'appellent, qui a colonisé tous les cours d'eau en France, au point qu'il n'y a quasiment plus d'écrevisses endogènes ici. Pareil pour le raton laveur, c'est une vraie question en France, en Allemagne, des ratons laveurs introduits par les soldats américains pendant la Seconde Guerre mondiale, c'était leur mascotte, et qui ont été abandonnés ici, et en fait qui se sont reproduits, et qui détruisent leur environnement, donc qui sont en concurrence directe. Le ragondin aussi, qu'on connaît bien un peu partout en France, et qui détruit les berges, par exemple. Donc, c'est pas parce que c'est inspiré du vivant que c'est pas dangereux, et que c'est pas non plus, que ce n'est pas non plus polluant. C'est quelque chose qui va se mesurer à part, ça. Donc, il ne faut pas se dire bêtement, de façon romantique, si c'est biomimétique, forcément, ça va être non polluant.
Voilà. D'accord. Et du coup, je rebondis sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des réglementations qui sont très spécifiques pour encadrer l'application du biomimétisme ?
Non, pas pour l'instant. Il y a... Pardon, c'est pas très radiophonique, mais... au niveau du Muséum d'Histoire Naturelle, Muséum National d'Histoire Naturelle à Paris, il y a Annabelle Hesch qui est en train de travailler en ce moment sur la constitution d'un groupe, donc porté par le MNHN, toujours, qui va s'intéresser à la question de l'éthique dans le domaine du biomimétisme. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on a le droit de faire et qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire. Quelles sont les limites de la pratique quand il s'agit ensuite de regarder les espèces et de savoir si on va les exploiter ou pas. Donc non, il n'y a pas de texte pour l'instant, ni au niveau national, ni d'accord. européen, ni international. Mais il y a une prise de conscience quand même des gens qui ont les plus grandes collections d'organismes vivants. C'est ce que fait le MNHN hein, à Paris. C'est, je crois, la deuxième collection mondiale d'organismes conservés. Donc ils ne sont pas vivants, hein, ils sont conservés. Donc collection d'insectes, collection de fossiles, collection... d'animaux donc collectés à travers plusieurs siècles et donc qui servent et aussi collection de données hein, simplement des radios des éléments comme ça qui permettent ensuite de revenir sur l'espèce éventuellement mais donc tous ces éléments là qui constituent une collection et dont on peut se demander finalement si elle a été conservée pour en avoir une exploitation purement commerciale ou si elle a été conservée pour en avoir une exploitation qui soit un peu plus louable. C'est-à-dire essayer d'améliorer des systèmes existants, mais sans nécessairement chercher à faire de l'argent en plus.
D'accord.
Donc c'est en gros le sens de la question actuellement.
D'accord. Bah écoutez, merci beaucoup. Mais c'est toutes les questions qu'on avait.
C'est vrai ? Formidable.
Oui. Merci.
Alors on rappelle qu'on est toujours sur Graphite aux Échos de l'innovation, avec dans le cadre de l'UV SI1. Et on remercie bien évidemment Karim El-Kirat pour cette interview et pour toutes les informations précieuses qu'il nous a apportées. Donc après avoir entendu l'avis de cet expert, est-ce que vous pensez, vous les filles, que le biomimétisme va fondamentalement changer le futur ?
Alors pour le coup, moi je le trouve assez convaincant, mais c'est vrai qu'il a dit lui-même, il y a certaines solutions qui sont trouvées par les hommes en fait directement, et il y en a d'autres qui sont pas forcément directement plus durables. Mais je suis quand même d'avis qu'avec les bons outils, le biomimétisme peut simplifier quand même énormément de problèmes, puisqu'il donne en fait une base à toutes les recherches, et ce qui nous permet, comme il l'a dit, d'innover presque sans réfléchir, bon, avec quand même les bons mécanismes et les bonnes ressources, etc. Et notamment pour voir aussi les mécanismes les mieux optimisés, que ce soit en termes de matériaux, d'énergie, tout ça. Il vaut mieux quand même se pencher sur la nature pour voir si, lorsqu'on a un problème, peut-être qu'il y a déjà une solution dans la nature et on pourrait s'en inspirer.
Et après, il faut faire quand même attention, parce que oui, comme il l'a dit, c'est pas forcément durable. Et là, on est quand même dans un objectif, enfin, peut-être pas pour tout le monde, mais on est, la plupart des personnes sont dans un objectif de limiter le réchauffement climatique et tout ça. Donc si on commence, bah, rien qu'à faire du greenwashing, par exemple, avec le biomimétisme, notamment au niveau des politiques, ça peut aussi être un problème, en fait, le
biomimétisme. Oui,
ça peut pas être que bénéfique, en fait. C'est parce qu'il y a bio et c'est bon,
oui,
ça sauve tout.
C'est ça.
Je suis entièrement d'accord, ça peut être pratique de s'en servir parce que, comme nous l'a dit Karim El-Kirat, souvent il y a une démarche écologique dans tous les phénomènes naturels. Donc, par exemple, avec le comportement des animaux et des plantes qui suit soit une économie de matière, soit une économie d'énergie. Donc, c'est-à-dire que si on essaye de faire de trouver des solutions qui sont inspirées de tous ces phénomènes naturels, on aura forcément une démarche potentiellement plus écologique, vu que ça va vers un sens d'économie de matière ou d'énergie. Et donc, dans ce cas, si on trouve les bonnes applications où on réussit à trouver des solutions inspirées de la nature, on pourra donc trouver des... Enfin voilà, il faut doser la manière dont...
Oui, c'est ça, il faut trouver le juste milieu, en fait.
C'est ça. Ouais. Après, oui, c'est vrai que... Quand même, il y a parfois, même s'il y a quand même une économie d'énergie ou de matière, dans la nature, leur but, ça reste leur premier but. Et parfois, ils ne font pas attention à tout le reste
oui,
pour obtenir leur but premier quand même.
Oui, ce n'est pas systémique.
Oui, c'est leur intérêt, c'est ça,
oui,
c'est leur
ça.
Intérêt personnel.
C'est que si le but c'est de trouver à manger, ils vont marcher sur d'autres petits animaux pour aller trouver à manger. Ils vont manger d'autres animaux qui sont peut-être en voie d'extinction, mais ils en ont. Si le but c'est de manger, c'est de manger.
Oui, tu parles peut-être aussi de l'approche systémique, le fait d'avoir de prendre en compte tous les éléments.
Ça. Oui, d'accord. Ça, les animaux l'ont pas, même si c'est vrai que ils font en sorte de tout optimiser au mieux.
Après, moi, je pense que dans tous les cas, dans le monde animal, même si il y a par exemple un animal qui aurait tendance à manger même des espèces en voie d'extinction, qui est quand même un certain équilibre quand même, parce que il y a pas cette espèce de société de surconsommation non plus dans le monde des animaux. Il y a quand même, nous, on est vachement dans les extrêmes là-dedans. Et pour rebondir un petit peu sur ce qu'avait dit Louise tout à l'heure, j'étais tout à fait d'accord avec toi sur qu'est-ce que tu avais dit déjà sur le fait que en fait on est toujours dans une réflexion d'économie de matériaux et de et d'énergie, justement, que on a déjà quelque chose dans la nature qui est optimisé parce que ça a déjà, enfin on a déjà avec tellement d'années d'évolution perfectionné quelque part les systèmes, etc. Et donc c'est vrai que c'est déjà une bonne démarche à prendre en compte, mais faut utiliser d'autres outils. Pour moi, le biomimétisme est un outil et il faut utiliser d'autres choses en parallèle avec ça pour justement avoir en tête que c'est une démarche écologique.
Oui, je suis d'accord avec toi parce que je ne suis pas sûre qu'il va forcément fondamentalement changer le futur, ou du moins le présent. Mais c'est vrai qu'on peut s'en inspirer et ça peut nous aider énormément sur beaucoup de choses. Mais si c'était complètement révolutionnaire, on aurait peut-être utilisé ça depuis des années en soi, ou du moins ça ferait beaucoup plus parler.
Après, le problème aussi, c'est ce qu'il disait, en tant qu'ingénieur, enfin, on est dans une école d'ingénieurs, nous toutes les quatre, et il n'y a pas d'éducation au bio, enfin, il n'y a pas de cours sur le biomimétisme. Et il avait dit, il faut essayer de former quand même les ingénieurs à ça, parce que c'est que ça peut quand même être une solution. Donc c'est peut-être aussi là aussi le point de départ de pourquoi le biomimétisme n'est pas assez connu et pourquoi on l'utilise pas dans nos innovations.
C'est que peut-être que ça pourrait en fait fondamentalement changer le futur, mais c'est vrai que si pas les bonnes personnes sont au courant, si pas assez de monde est au courant, pas assez de ressources sont mises en place, ça peut être difficile de changer le futur quand on n'a pas les ressources.
Ouais, voilà.
Alors qu'il y aurait le potentiel.
Voilà,
c'est ça.
Donc, maintenant que nous avons parlé de toutes les manières dont l'homme peut s'inspirer de la nature pour trouver des solutions à ses problèmes, on peut quand même se demander si l'homme a-t-il réellement besoin de chercher dans la nature pour trouver des solutions et innover, ou est-ce qu'il est assez intelligent pour les trouver éventuellement lui-même ?
Il y a un bon exemple pour illustrer donc ton point, Jeanne, c'est le réseau ferroviaire japonais de Tokyo. Donc ce réseau a subi une expérience biomimétique. Donc le réseau ferroviaire a tout d'abord été développé par des experts, donc afin de relier les points de la ville, bien sûr, de la manière la plus efficace possible, en prenant en compte donc tout ce qui est relief et interférence. Donc ensuite, la ville a été recréée dans une boîte de pétri, donc avec tout relief naturel, les points d'arrêt. Et puis il y a un blob qui est une espèce unicellulaire très intelligente qui est connue pour sa capacité à trouver les chemins les plus courts pour aller d'un point à un autre, qui a été introduite dans la boîte de pétri. Et donc logiquement, elle a essayé de frayer son chemin pour aller vers ses sources de nourriture qui représentaient donc les arrêts de métro à relier. Donc de cette manière, cette espèce, le blob, a créé un réseau de transport à lui seul, qui est le réseau présenté comme idéal par cet organisme naturel.
Alors oui, et ce qui est vraiment rigolo, c'est qu'en fait, en comparant le réseau du blob à celui que les experts avaient créé, on se rend compte qu'en fait, ils sont presque identiques et que les experts avaient trouvé par eux-mêmes le meilleur réseau possible, sans avoir besoin de prendre cours aux solutions de la nature. On peut donc se demander si l'homme ne peut pas trouver des solutions optimales par lui-même sans aller voir ce qui se fait naturellement. Ce serait finalement un hasard que nos innovations ressemblent à la nature. Qu'est-ce que vous en pensez autour de la table ?
Moi, personnellement, justement, avec l'exemple que vous venez de donner, les filles, je ne pense pas que l'homme ait besoin de chercher obligatoirement dans la nature pour innover, car on peut appliquer en fait des modèles mathématiques pour trouver certaines solutions, ce qui est fait depuis des années en tant qu'ingénieur. Mais ces solutions, elles peuvent être bien sûr perfectibles. Et du coup, on peut les améliorer justement en s'inspirant de la nature. Donc je ne pense pas que l'homme ait besoin de chercher dans la nature
toutes les innovations, mais il a juste en fait besoin de les perfectionner en fait avec la nature.
Alors moi, je pense que on a justement tendance à trop simplifier les systèmes qu'on étudie, à se dire que, bah, par exemple, on modélise un aile d'avion par une ligne ou des choses comme ça, où on arrondit toujours pi égal à 3 parce que c'est plus simple de faire les calculs comme ça. Et donc, vu qu'on a cette tendance en fait de trop simplifier les modèles qu'on calcule, on risque souvent de rater justement des solutions très intéressantes. Et je pense que la nature, c'est une bonne source pour chercher ces solutions un peu plus complexes, un peu plus sophistiquées peut-être, parce que nous, on n'y a pas forcément réfléchi, même si on en est peut-être capable, si on y met les ressources. Mais justement, en général, ces ressources pour mettre en place de telles modélisations, par exemple, ça coûterait trop cher. Le biomimétisme est peut-être aussi un moyen justement pour utiliser moins de ressources pour trouver ces solutions intéressantes.
Je suis plutôt d'accord avec toi et pas trop d'accord avec Juliette. Ah. Pour le coup, de ce que j'ai compris de ce que tu as dit, c'est que tu penses qu'on ne devrait pas trouver les idées dans la nature, mais par contre les perfectionnements.
Oui, c'est ça. En fait, on a des modèles mathématiques, scientifiques. On les a, ils sont là devant nous. On peut les utiliser, mais on peut aussi les perfectionner avec le biomimétisme.
Eh bien, moi, je pense que ce serait plutôt l'inverse. Oui, que je pense que, justement, la nature, elle est tellement vaste et il y a tellement de situations depuis des milliards d'années dans la nature qu'en fait, on devrait plutôt trouver nos idées, en fait, dans la nature. Et alors que le perfectionnement, je pense que ça dépend plutôt de nous puisque, évidemment, tous les trucs technologiques, on ne les trouve pas dans la nature. Alors que là, tous les perfectionnements pour que ça corresponde vraiment à notre style de vie, à notre où est-ce qu'on veut le mettre, comment on veut que ça marche, etc., on peut trouver les ressources que d'autres humains ont déjà trouvées pour, cette fois-ci, rendre toutes ces innovations plus faciles. Mais la base d'un problème, je pense qu'on peut potentiellement trouver pas mal d'idées dans la nature.
Après, perfectionnement, je dis perfectionnement parce que dans notre société, on n'est que dans le perfectionnement.
Oui, c'est vrai.
On cherche juste à créer, innover.
Oui, c'est ça.
Sans forcément être juste minimaliste et se contenter de ce qu'on a.
À mon avis, pour moi, c'est grâce au biomimétisme que l'homme a su développer ses idées un peu depuis la nuit des temps. Car même les modèles mathématiques dont se servent tous les scientifiques pour trouver des solutions, ils sont inspirés eux-mêmes par la nature très souvent. On voit que tout ce qui est phénomène naturel, la durée d'un jour et tout, ça a grandement influencé donc, tous les modèles mathématiques. Et donc, même si les experts ont réussi à trouver par eux-mêmes la solution la plus optimisée pour les transports de Tokyo, maintenant qu'on sait qu'il existe un organisme vivant qui est capable lui-même de le déterminer seul, ce réseau optimisé, ça veut dire qu'on peut appliquer ce test à tous les exemples qu'on veut. Donc, par exemple, on peut maintenant se servir du blob pour dessiner facilement un réseau ferroviaire d'une autre ville, par exemple. Donc à partir du moment où on sait qu'il existe une solution naturelle qui va nous permettre de remplacer tous ces calculs compliqués faits par les experts, on peut s'épargner le besoin de faire les calculs. Donc ça montre que sans le vouloir, on est influencé un peu et inspiré depuis toujours par la nature, avec nos modèles mathématiques qui sont eux-mêmes dérivés de la nature. Et donc ça nous amène sans surprise vers des solutions qui vont aussi être trouvées par d'autres organismes naturels au final.
Ça revient aussi à l'éducation en fait, nous, on nous apprend les modèles mathématiques, par exemple.
Oui, c'est ça. Mais après, justement, à partir du moment où on a ces modèles mathématiques, à partir du moment où ils ont été créés et où on peut les utiliser, c'est vrai que je vois plus trop, en vrai, l'intérêt d'aller rechercher dans la nature alors qu'on les a déjà. C'est peut-être la solution de facilité d'utiliser les modèles mathématiques, en fait.
Oui, c'est ça.
Oui, je suis entièrement d'accord. Moi, je pensais plutôt au fait que ces modèles étaient de base inspirés par la nature. Et donc, en fait, quand on les utilise, on ne pense pas à « je trouve cette réponse dans la nature ».
Oui, c'est ça.
Enfin, il y a déjà un peu...
D'accord.
Donc, le biomimétisme prend aussi sa place dans la politique. Donc, la transition écologique est un sujet, bien sûr, qui est inévitable en politique aujourd'hui. Le biomimétisme est considéré comme l'une des solutions pour basculer vers une société plus durable, entre guillemets, et plus respectueuse de l'environnement. Donc, le ministère prend des mesures pour le promouvoir, Donc, il organise et soutient les colloques scientifiques et des manifestations grand public. Il soutient les activités de coordination recherche-industrie au Centre d'études et d'expertise en biomimétisme, et ce jusqu'à l'international dans la normalisation des travaux biomimétiques. Et il apporte aussi sa contribution dans des études à caractère scientifique ou stratégique, par exemple l'état de l'art, les feuilles de route, travaux prospectifs, et même dans les travaux de doctorants. Donc maintenant, reste à savoir si cet investissement dans le biomimétisme est réellement à l'avantage de la planète. Une invention mimétique n'est pas forcément durable, comme nous l'a dit tout à l'heure Karim El Kirat. Par exemple, je vais vous donner un exemple, du coup, le Velcro est une super innovation biomimétique, mais n'est pas particulièrement durable, car le textile inspiré par la plante, et donc le Velcro qui est fait en nylon, en fait, c'est une fibre très très polluante.
Eh bien, c'est vrai que il faut simplement bien choisir. Je pense quand même qu'il faut simplement bien choisir ce qu'on décide de copier. Et pour cela, il faut simplement mieux investir pour le rendre le plus efficace possible. Puisque, par exemple, on a parlé du coup avec le lien avec la politique. Et je pense que la politique devrait se charger de la rendre plus efficace et donc de mieux investir pour qu'elle soit elle-même plus efficace seule.
Oui, après, je ne pense pas qu'il faut qu'on aille dépasse la limite où, en fait, l'État dise « Oui, nous, on investit dans le biomimétisme, on est durable et du coup, on n'a pas besoin de... »
Ce serait une excuse, tu veux dire.
Oui, c'est complètement. Justement, de se dire « On investit là-dedans et du coup, on a fait notre devoir et c'est fini. » Oui. Alors que ça ne suffit pas du tout de juste investir dans le biomimétisme.
Mm-hmm. Effectivement. Complètement.
Alors, on peut aussi donc se poser la question de la temporalité par rapport au biomimétisme. On cherche toujours, en tout cas aujourd'hui, à innover et à avancer le plus rapidement possible. On veut toujours avoir des avancées technologiques les plus optimisées. Et aujourd'hui, on voit vraiment une évolution exponentielle des innovations. Et donc, cette demande de rapidité, justement, elle contredit quelque part un peu le principe du biomimétisme. Parce que, comme on l'a vu avec Karim El Kirat, la nature était construite à partir d'une évolution et d'une sélection naturelle qui dure depuis plus de 4 milliards d'années. Et donc, est-ce qu'on peut associer en fait ce biomimétisme, est-ce qu'on peut vraiment le combiner avec nos moyens d'innover aujourd'hui et nos moyens de réfléchir? Vous en pensez quoi?
Comme on en a parlé, là tu poses la question de la durabilité, c'est ça?
C'est ça. Est-ce que penses concrètement que le biomimétisme justement permet de... En fait, est-ce qu'on peut l'appliquer partout? Parce qu'on ne prend pas en compte le fait que parfois les processus, les procédures ont besoin de temps en fait
Bien
pour développer.
Ouais. Concernant la durabilité, on en a parlé avant... Il y a bien sûr des innovations comme les éoliennes, par exemple, qui permettent justement de réduire le bruit pour les habitations et tout ça, ce qui permettrait donc du coup d'en implanter plus à des endroits sans qu'il y ait l'argument de « oui, ça fait du bruit ». Bon, il y aura toujours l'argument de « c'est pas forcément très esthétique, les éoliennes ».
Moi, j'aime bien.
Ah ouais,
oui, je trouve ça hyper beau, je trouve ça vraiment...
Je suis d'accord avec toi.
Je trouve que c'est presque un symbole de liberté, tellement c'est grand, impressionnant et oui.
Oui, je suis assez d'accord.
Mais oui, donc il y a une partie du biomimétisme qui va donc du coup favoriser justement à développer les énergies renouvelables, mais on revient toujours aux mêmes choses. C'est pas forcément synonyme de durabilité et biomimétisme et durabilité, c'est pas forcément synonyme. Et aussi concernant la temporalité, c'est vrai qu'il faut faire quand même beaucoup de recherches pour trouver des bons modèles. Enfin, déjà pour trouver des modèles de base, il faut quand même faire de la recherche, mais là en plus avec l'aide de nature, ouais, je pense qu'il faut encore faire davantage des recherches. Donc, mettre le biomimétisme comme durabilité, pas forcément, parce que ça prend quand même du temps quoi, de mettre ça en place.
Oui, c'est ça. Je pensais notamment aussi, vu qu'on vit vraiment dans une société très industrialisée, justement de se dire que parfois, on ne va pas pouvoir produire quelque chose une durée raccourcie. Même en pensant, par exemple, pour créer un enfant... il te faut 9 mois avant que cet enfant soit même mise au monde. Enfin, ouais. Ça prend vraiment énormément de temps pour avoir quelque chose de si complexe. Et en plus de ça, après, enfin, t'as un bébé, t'as même pas un adulte. Enfin, mm-hmm. ça prend des dizaines d'années avant c'est d'avoir. Ça.
Même plus.
C'est ça. On n'est jamais fini en fait. Et du coup, bah, justement, ce truc de se dire, bah, on cherche toujours à avoir des trucs hyper rapidement. Mm-hmm. Et est-ce que c'est vraiment possible de imiter la nature un peu dans cette manière-là, ou est-ce qu'on est, enfin, on essaye finalement d'accélérer en fait les processus naturels.
Mmh.
Je pense qu'une des notions de temporalité qu'on peut prendre en compte, c'est le fait que la nature, ça fait 4 milliards d'années qu'elle optimise et elle perfectionne donc tous ces systèmes. Et donc nous, ce qui peut être pratique en notion de temporalité, c'est que si on utilise les modèles, on peut donc innover un peu en réfléchissant moins, parce que on a très rapidement accès à un modèle qui en fait a passé des milliards d'années à se développer et à se perfectionner. Donc ça, c'est une autre dimension de temps qu'on peut voir dans le biomimétisme, qui justement nous permet de raccourcir les temps de réflexion, par exemple.
Oui. Ah oui, d'accord.
Oui, c'est vrai, ça c'est un autre point de vue.
Mais après, j'ai peur que si on prend des choses qui marchent maintenant, peut-être que le temps qu'on les développe, qu'on réussisse à comprendre exactement le mécanisme et qu'on arrive à l'adapter vraiment au système humain, j'ai peur que ça soit limite déjà passé d'âge si on prend vraiment trop de temps.
Oui, ça dépend.
Qu'il y ait déjà d'autres innovations, qu'il y ait déjà d'autres choses, que ça soit plus au goût du jour, que le problème soit plus aussi gros qu'avant, etc. C'est un peu bizarre ce que je raconte, mais voilà, par rapport à la temporalité.
Oui, c'est vrai qu'il faudrait prendre en compte le fait que également la nature évolue constamment, et donc peut-être que, je ne sais pas si c'est ce que tu dis, mais une solution qui est aujourd'hui dans la nature, bah, elle va évoluer, elle ne sera peut-être pas adaptée dans quelques centaines d'années.
Exactement. Par exemple. Ça se modifie, les modèles, ils se modifient en fait de la nature.
Oui, et aussi les modèles humains, ils se modifient.
Ouais.
Parce que peut-être qu'une solution qui est utilisée dans la nature, eh bien, depuis 4 milliards d'années, nous, on a déjà évolué trop loin pour qu'on puisse revenir à quelque chose de cette forme et l'utiliser nous-mêmes sur notre mode de vie.
Après, ouais, ça, c'est un point de vue. Enfin, ce que tu dis, là, on est déjà trop avancé. C'est juste avoir un autre point de vue, changer de société. Ça va être très compliqué, mais c'est changer, la manière de penser de la société et se dire, bah, on revient à des modèles.
Oui, c'est déjà ce qu'on est en train de commencer un petit peu à tenter de faire.
C'est compliqué, mais on essaye.
Avec la transition écologique. Mais c'est vrai que oui, il faudrait peut-être s'aider de ce biomimétisme pour la transition écologique, puisque si on tente de revenir à certains modèles, ça pourrait être une solution.
Ouais,
exactement, ça pourrait être une solution. Donc moi, je pense que concrètement, ça dépend en fait de nous, de le rendre durable ou pas, le biomimétisme.
Oui, et d'appliquer les bons modèles, parce que
exactement.
Il y a des choses non durables.
Et donc là-dessus, on va revenir sur notre question initiale, donc notre problématique qui était donc le biomimétisme. Est-il vraiment durable ?
Du coup, comme on vient d'en parler, ça dépend un peu de nous-mêmes de le rendre plus durable, puisque les solutions qu'on trouve dans la nature peuvent être durables dans la nature ou ne pas l'être.
Bah oui, c'est ce qu'on vient de. C'est ce dont on vient de parler. C'est...
Exactement.
Oui, donc c'est vrai qu'on avait déjà fait le tour là-dessus. Oui.
Du coup, nous arrivons donc à la fin de l'émission. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que le biomimétisme, c'est vraiment un vaste sujet qui est encore loin d'être complètement compris ou même exploré. Comme l'a dit Karim Elkira, ou comme on voit que Madame Janine
Bénius.
Ça fait seulement depuis les années 50 que le terme de biomimétisme existe, et elle l'a popularisé dans les années 90. Donc vraiment, on voit qu'il y a encore tout un processus qu'il faut développer. En fait, c'est encore quelque chose, même si on l'utilisait un petit peu sans s'en rendre compte, pas forcément sans s'en rendre compte, mais pas en utilisant le fait que ce soit du biomimétisme et qu'on s'inspire de la nature. Je pense qu'il faut il y a encore une longue route qui nous attend par rapport à ce sujet et qui pourrait bien d'ailleurs, selon certains experts, faire évoluer complètement notre mode de vie dans le futur. Donc sur ce, merci beaucoup à toutes et à tous de nous avoir écoutés et d'être restés avec nous pendant cette émission. Et on vous retrouve très bientôt pour un nouveau chapitre des Échos d'innovation. À bientôt.
Merci.
À bientôt.